qu'on peut revenir rapidement sur l'histoire du patrimoine audiovisuel chez Air France. Et il faut savoir que le patrimoine audiovisuel chez Air France, en fait, il faut le resituer dans une gestion plus globale en fait, du patrimoine. Donc ça, c'est ce que j'ai découvert grâce à ton étude. C'est que, et aussi en assistant au colloque sur la marque et l'image des marques et la valorisation des archives audiovisuelles l'année dernière. Donc en fait, avec la création en 1972 du musée Air France, qui au départ était rattaché à la direction régionale, puis en 1998, la création du service patrimoine historique et culturel, donc lui rattaché à la direction de la communication, et ça c'est en 1998. Et donc le patrimoine chez Air France va être partagé entre le musée, qui va s'adresser davantage aux collectionneurs, et le service patrimoine historique et culturel qui, lui, s'intéresse à tout ce qui peut valoriser la marque, donc les objets publicitaires, les uniformes et les archives audiovisuelles. Et en 2009, on a la centralisation des collections au service des archives patrimoniales qui, lui, est situé à la direction générale. Et donc, c'est ce service qui prend en charge l'application des normes muséographiques, à l'exception des archives audiovisuelles qui, elles, reste dans le service patrimoine historique et culturel. Donc on voit que pour une organisation, pour une entreprise, la gestion du patrimoine audiovisuel, en fait, ça correspond aussi à une organisation en interne de l'entreprise. Et donc c'est pour ça aussi qu'on peut étudier la dimension communicationnelle et la façon dont les discours circulent autour de cette innovation, finalement, qu'est la numérisation du patrimoine dans les entreprises. Parce que ça va être associé avec une organisation politique et sociale de l'entreprise et de l'institution. Donc au niveau du service audiovisuel qui va gérer les contenus des archives audiovisuelles spécifiquement, il est rattaché à la direction de la communication, et le service patrimoine historique et culturel regroupe donc 6 personnes actuellement chez Air France, avec une personne qui est chargée des événements, une personne qui est chargée de la valorisation des fonds audiovisuels, et on voit qu'il y a la distinction aussi entre les fonds audiovisuels et les fonds photographiques. Oui. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir qu'il y a vraiment une spécificité par support aussi technique dans l'organisation qui est choisie par l'entreprise, parce que l'entreprise, elle fait des choix dans ce cas-là. Et donc l'autre choix, ça a été de séparer les contenus audiovisuels des collections, on va dire, patrimoniales qui, elles, sont prises en charge par le musée Air France, qui, lui, a une forme d'association et qui, lui, est rattaché à la direction générale. Et donc qui va plus s'adresser, on va dire, alors là, en termes d'usage, usage du patrimoine, va plus s'adresser aux collectionneurs, finalement. Ça sera moins dans des usages, finalement, communicationnels que des usages, on va dire, presque muséaux. Voilà, on peut dire que c'est plus des usages qui s'apparentent aux usages patrimoniaux des musées. Alors, les missions qui ont été énoncées pour le service patrimoine historique et culturel, c'est conserver le patrimoine audiovisuel de l'entreprise, mettre en valeur ce patrimoine et veiller à l'image de l'entreprise. Donc, c'est vraiment les trois missions qui sont dessinées pour un service chargé du patrimoine historique et culturel et rattaché à la direction de la communication. Et donc, comme vous l'avez bien montré dans votre étude sur les dispositifs de valorisation des fonds audiovisuels des entreprises, l'entreprise a la responsabilité, finalement, d'organiser la mise en relation entre les contenus audiovisuels, donc que vous avez distingué en online et offline, et en direction à la fois de public en interne, donc ça c'est toutes les missions de communication interne dans l'entreprise, et des publics externes, et donc là on est plus avec des politiques de communication en direction, on peut même dire même du grand public, et en tout cas de publics qui ne sont pas intégrés à l'entreprise. Donc j'avais aussi repris ce schéma qui était très graphiquement, il représente très bien justement les lignes de tension dont j'ai parlé, entre d'un côté le patrimoine, les missions patrimoniales et les missions commerciales qui sont dans l'entreprise un peu en tension, puisqu'elles sont aux deux extrémités, et également bien représenter les deux types de publics, on va dire, qui peuvent être visés. Bien entendu, il y a des étapes intermédiaires entre des publics plutôt dans la communication interne et des publics plutôt de la communication externe. Et on voit qu'à chaque fois, la position des archives audiovisuelles, en fait, elle va varier. Donc, elle peut être considérée comme source de revenus par certains moments, comme instrument de preuve, là, je reprends les termes du schéma, ou bien outil de rationalisation des process. Ça, j'ai vu que c'était plutôt dans la partie communication interne, source d'inspiration aussi pour l'innovation, et aussi outil de management interne à l'entreprise. Et ensuite, dans la partie qui correspond plus aux missions patrimoniales, on a les archives audiovisuelles comme source d'information pour la recherche et pour l'histoire de l'entreprise, et outil de rayonnement culturel, j'ai noté, que je trouvais que c'était très... c'était une manière très... une belle image pour parler des usages des archives audiovisuelles, donc comme outil de rayonnement culturel, et donc aussi instrument de promotion de l'image de la marque. Donc il y a vraiment une distribution assez variée des outils. Alors aussi, ce que j'ai noté pour le cas d'Air France, c'est qu'au niveau du service de la communication, en fait, il y a eu des mouvements, et notamment, on peut noter que la personne qui est directrice, qui a été nommée en 2012, qui a été nommée directrice de la communication donc d'Air France, a été aussi directrice de la communication externe et marketing de France Télévisions. Et je trouve que dans le cas d'un parcours, on va dire, et d'imaginer aussi l'expérience professionnelle des médias audiovisuels, on peut dire que cette personne, en fait, elle est tout à fait aussi représentative de ce moment aussi où l'entreprise devient elle-même média, puisque donc on nomme à la tête de la communication d'Air France quelqu'un qui a réellement cette culture médiatique, on peut dire. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et depuis juillet 2015, donc la directrice donc de la communication et aussi directrice générale adjointe d'Air France. Elle a été nommée en juillet 2015 et donc elle en rapporte directement au président directeur général d'Air France qui est donc Alexandre de Juniac. Donc pour montrer aussi l'importance, je pense, que prend la communication et même l'image de marque finalement dans l'époque finalement qu'on vit où les entreprises doivent occuper le terrain médiatique parfois pour aussi un petit peu faire un contrepoids avec l'actualité, je pense, qui malmène parfois un peu les entreprises. Donc ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est d'identifier des points de tension, en fait, des moments clés, et donc de voir sous quelle modalité en fait, les entreprises en interne prennent part à des controverses et autour des archives audiovisuelles. Donc on va avoir par exemple des moments importants, comme par exemple au moment de l'affectation des budgets, où j'ai vu, donc grâce aux sources auxquelles Clément m'a donné accès, qu'il y avait une évolution notamment des budgets, par exemple d'une année sur l'autre. Donc les budgets qui sont alloués à la numérisation des archives audiovisuelles, en fait, vont varier d'une année sur l'autre. Et donc on comprend bien que c'est l'objet de discussions pour l'entreprise, de controverses même parfois, de savoir quel montant va être alloué chaque année. Parce que voilà, ça a un coût, la numérisation des archives audiovisuelles. Et donc aussi, comme un autre versant de cette même réalité des entreprises, c'est que par conséquent, il faut que les usages et les retombées qui sont associées à la numérisation des archives soient quelque chose qui sont dans une efficacité aussi pour l'entreprise. Donc on va s'attendre à ce que les usages communicationnels et médiatiques autour des archives audiovisuelles pour lesquelles on a consenti un effort justement pour procéder à la numérisation, on va s'attendre justement à ce que ces usages et ces retombées soient visibles pour l'entreprise. Et on va également avoir comme autre point de tension la mise en œuvre technique, donc avec les choix qui concernent les bases de données, l'exploitation des archives, la gestion des droits audiovisuels, enfin ces choses-là. Donc ce sont des moments clés, en fait, qui sont associés à cette innovation technique dans l'entreprise de la numérisation du patrimoine audiovisuel. Alors on voit par exemple dans les concrétisations et les réalisations d'Air France, justement comme tu l'expliquais bien, et que c'est intégré à un plan de communication souvent qui est lié à la célébration d'un anniversaire pour l'entreprise. Donc là, Air France, la saga, par exemple, c'est une plateforme, hein, carrément une plateforme web qui a été mise en ligne, publiée au moment donc d'une campagne pour les 80 ans de la compagnie Air France, avec donc une exploitation des archives audiovisuelles à cette occasion-là. Et donc avec des productions qui sont d'un ordre enfin, totalement professionnel, on peut dire, c'est-à-dire que les archives sont scénarisées et mises en scène sur les sites de manière totalement professionnelle, comme les feraient les professionnels des médias. On a aussi, alors moi j'ai collecté certains types de discours, notamment un discours interne sur, qui est porté par la lettre du musée. Donc ça c'est pour la partie, pour l'association du musée Air France dans sa 30e édition en avril 2013. Donc ça cadre très bien en fait le contexte dans lequel s'insère la numérisation des archives. Donc on nous dit l'année 2013 verra la pleine application du plan, donc le plan Transform 2015, qui a été un plan assez donc stratégique dans l'entreprise, lancé en janvier 2012, qui doit permettre à Air France de restaurer sa compétitivité et retrouver son leadership mondial. Notre association apporte sa contribution à ces efforts en mettant à disposition de la compagnie tous les exemples puisés dans son histoire d'adaptation aux différentes crises qu'elle a connues au cours de ses 80 années d'existence. Cette contribution ne saurait être mieux illustrée qu'au travers du DVD conçu en liaison avec la direction de la communication, Air France, la force d'adaptation. Nous espérons que son utilisation par les services de la compagnie contribuera au mouvement de solidarité et d'adaptation souhaité par le président Alexandre de Juniac lors de ses vœux au personnel de janvier 2013. Et nous étudierons avec la nouvelle responsable du pôle partenariat et événements de la direction de la communication, Sandrine Marcel, comment commémorer le 80e anniversaire de la compagnie dans une année difficile qui n'autorise pas des dépenses somptuaires. Naturellement, toutes nos collections, gérées par le service des archives et patrimoine de la direction du siège, serviront de support aux différentes manifestations que nous pourrons élaborer conjointement. Et cette année verra pour notre association la concrétisation de trois projets que nous avions évoqués dans notre dernière lettre, la création d'un musée virtuel, la numérisation d'une partie de nos collections en partenariat avec la BNF, et enfin l'évolution possible de notre association au sein d'un fonds de dotation. Donc on voit qu'en 2013, les enjeux qui sont connectés, reliés à la numérisation du patrimoine de l'entreprise sont totalement intégrés dans la politique générale finalement de l'entreprise. Et voilà, donc après on a des choses un peu plus précises à l'intérieur de la lettre sur la création du musée virtuel Air France et le partenariat avec la Bibliothèque nationale pour la numérisation du fonds des collections. Alors au niveau technique, en fait, on assiste en fait, dans ces projets-là à une mise en place assez classique en fait, d'un digital asset management, donc vraiment d'un système de gestion de ressources numériques. Donc ça a très bien été décrit par Bruno Machimon en 2007 dans les nouvelles tendances applicatives de l'indexation à l'éditorialisation. Donc pour Air France, on est face au même type de processus, on va dire, de mise en place. Enfin, c'est très classique, hein, la mise en place de l'archivage et de l'exploitation des archives audiovisuelles. Donc je vais passer un peu vite. Et donc au niveau des prestataires, en fait, Air France s'est tournée vers un prestataire qui s'appelle Wedia, et donc qui, à partir de 2008, leur a permis d'implanter donc, le logiciel GESCO pour gérer donc, les fonds audiovisuels sous forme d'une médiathèque. Et là aussi, on a des extraits en fait, de discours qui concernent tout simplement le prestataire technique et qui sont très caractéristiques en fait, d'une innovation technique. On va par exemple nous dire la plateforme cross-média est idéal pour atteindre ses objectifs métiers. Donc la plateforme cross-média est la réponse concrète aux besoins des métiers en matière de publication, puisqu'elle donne la main aux équipes fonctionnelles pour publier sur leurs médias cibles afin de remplir leurs objectifs, et ceci en toute autonomie et réactivité. La plateforme Ideal comprend un référentiel unique pour centraliser et organiser les contenus, les structurer, les centraliser et les rendre accessibles à tous les contributeurs, quel que soit leur métier et leur localisation géographique. L'espace collaboratif de la plateforme fédère l'ensemble des acteurs et fluidifie la conception, l'alimentation, la scénarisation, la traduction et la déclinaison du contenu en fonction du média cible en vue de la publication des contenus. La plateforme CrossMedia permet d'organiser le rythme de publication et le niveau de scénarisation, et ces processus font gagner en productivité et en réactivité. Et donc là, on sent que réellement dans ces discours, en fait, le prestataire est aussi là pour garantir à l'entreprise finalement qui va adopter une solution logicielle la garantie de la réalisation de ses missions et de ses objectifs, finalement, un peu quel que soit le type de contenu. Mais la plateforme technique, elle est là en support et en appui à la politique interne de l'entreprise, finalement. Donc on a aussi d'autres discours, toujours de Wedia, sur la conduite du changement pour réussir le déploiement d'une plateforme cross-média. Donc là aussi, on a vraiment toute la thématique de l'innovation, hein, parce qu'on parle de la conduite du changement. Voilà, un projet cross-média s'appuie sur la vision stratégique des dirigeants et sur l'évaluation du retour sur investissement. Donc là, dans la même phrase, on a réellement donc l'objectif, c'est à la fois de numériser, mais aussi le retour sur investissement. Et donc là, on a le versant usage qui est totalement intégré finalement avec aussi ce que j'expliquais tout à l'heure, le cadre de fonctionnement et le cadre d'usage qui sont associés dans la même phrase. Et donc le contenu et sa diffusion sont au cœur de la problématique des marques. Donc c'est vraiment aussi le discours qui est tenu par le prestataire technique. Donc on a comme ça un discours très concordant finalement qui permet de fédérer, on va dire, les acteurs qui prennent part à la conduite du changement et de l'innovation dans l'entreprise. Donc sur par exemple les usages, l'objectif c'est interagir avec les consommateurs. Avec l'avènement du web 2.0 et le consommateur, le marketing doit aussi repenser ses modèles traditionnels pour avoir une approche plus relationnelle avec son prospect et en engageant le dialogue avec lui, en conversant avec lui. Donc ensuite, on a tous les idéaux vraiment la dimension communicationnelle en fait, et les archives audiovisuelles sont dans cette logique de créer du lien et de la relation aussi avec les clients et aussi les partenaires de l'entreprise. Alors Clément, vous aviez bien précisé les enjeux internes et externes dans votre étude sur la valorisation des archives audiovisuelles, donc avec dans les enjeux internes, illustrer le savoir-faire, favoriser la création, transmettre le geste, renforcer l'appartenance, fédérer les collaborateurs, rationaliser les processus de gestion de l'information et des médias. Et dans les enjeux donc externes, extérieurs à l'entreprise, légitimer et crédibiliser les marques, définir le positionnement, se démarquer de la concurrence. Donc ça, c'est vraiment les logiques de différenciation que moi, j'avais déjà étudié pour ma thèse. Fidéliser les consommateurs, renforcer le lien avec le consommateur et limiter les coûts de production. Et donc pour resituer aussi de manière un peu plus large dans la situation actuelle dans les entreprises, où on parle beaucoup du knowledge management. Donc c'est la manière d'organiser la circulation et la gestion des connaissances et des ressources dans les entreprises. Donc ça, c'est un enjeu actuel dans les entreprises, d'assurer la bonne circulation et la gestion des connaissances d'entreprise. Donc si on veut, on peut resituer aussi les archives audiovisuelles dans ce contexte de knowledge management pour sensibiliser les jeunes salariés et nouveaux arrivants à l'histoire et aux valeurs de l'entreprise, et donc avec le patrimoine aussi comme source d'inspiration pour l'innovation interne et donc pour toujours alimenter cette culture d'entreprise qui se doit d'être réactivée, pratiquer, enfin, qui se doit de circuler. Voilà, donc au niveau de mon rapport de réflexion, j'en suis ici. Je vais passer assez rapidement. Alors, sur l'usage des archives audiovisuelles, je me réfère à Bruno Bachimon, toujours les nouvelles tendances applicatives de de l'indexation à l'éditorialisation. Et donc, il parle de trois postures dans le processus éditorial qui président à la réexploitation des contenus pour aborder la question de leur origine, donc avec ce qu'il appelle la posture amnésique, la posture généalogique et la posture créative. La posture amnésique, c'est la production qui utilise les ressources comme des objets neutres, comme si elles ne provenaient pas d'une intention auctoriale préalable. Cette posture consiste à réduire le contenu uniquement à ce qu'indique directement la forme d'expression en négligeant le sens que pouvait lui conférer le contexte documentaire d'origine du contenu. La posture généalogique, elle intègre différemment le contexte d'origine. Tout l'enjeu de la nouvelle production documentaire est de mettre en valeur les ressources dans leur contexte documentaire d'origine. Et enfin, la posture créative, il s'agit de réutiliser les contenus dans leur forme matérielle, même indépendamment de leur signification et de leur contenu perceptif. Et donc, on peut voir au niveau de l'utilisation par les entreprises une variation aussi de ces trois formes de posture par rapport à l'archive. Là aussi, je me réfère sur les usages des archives à Matteo Treleani, donc sur son travail autour des régimes de croyance de l'archive audiovisuelle, avec les archives comme traces et indices pour la reconstruction du savoir. Et donc pour Matteo Treleani, on a deux formes de contextualisation dans la publication en ligne des archives, ce qu'il appelle la remédiation et le changement aussi des références socioculturelles. Donc le travail de Matteo en fait vise vraiment à recontextualiser, enfin à voir la signification finalement de l'archive comme preuve d'un événement avec l'identification des régimes d'autorité, l'origine institutionnelle de l'archive et en expliquant que la source de l'archive authentifie. Et donc moi je vais considérer dans mon étude l'entreprise comme une source audiovisuelle, une source d'archives audiovisuelles privilégiée. Donc pour Air France, on a donc comme belle réalisation, on va dire, type de valorisation, on a cette médiathèque qui est accessible sur Internet, et donc une mise à disposition, on va dire, presque intégrale de ces archives. Voilà, donc avec dans les discours, dans les vidéos en elles-mêmes, vraiment une valorisation à la fois de l'entreprise et à la fois des techniques qu'elle est capable de déployer, notamment sur... J'ai beaucoup regardé tout ce qui était un peu du vocabulaire précis comme effet de flotte, rayon d'action. Enfin, on sent que vraiment il y a aussi toute cette mythologie autour de l'aéronautique finalement qui est développée dans ces vidéos. Et donc la fameuse chaîne YouTube qui est une chaîne Air France, donc Corporate Channel, qu'on peut trouver sur YouTube, où donc la chaîne alimente de manière très régulière cette chaîne en contenu, donc des contenus très diversifiés. Et je vais simplement vous montrer un exemple de réutilisation. Donc en 2011, il y a eu la production d'une série de 10 vidéos qui mettaient en scène, on va dire en jeu, les archives, avec donc cette série qui s'appelait D'hier et d'aujourd'hui. Et donc je vais vous montrer un exemple, je vais vous montrer la flotte. On va voir le son, je ne sais pas.
Par derrière, merci. Allons-y pour le 4.
Elle t'a pas prêt à rouler.
Tour d'Orly, ici Air France, LTLTDL. Un pigeon pour rouler au sol, s'il vous plaît, à vous. La tour d'Orly, je rappelle, prête à décoller.
Décoller. Delta Papa, décollage à 16h28, contacté par les contrôles. Au revoir. Bravo Golf, Claire à 9500 km.
Contrôle de Air France devant vos Golf, 121.
Comment recevez-vous, à vous?
Novembre Golf de Genève Contrôle sur 121.1, je vous reçois 5 sur 5, à vous.
Vous êtes à 3000 mètres d'altitude, à bord d'un avion d'Air France. Quelque part, sur une des innombrables voies célestes, une aviation française a tracé en marche de la planète.
Fox, bravo, Hotel, Echo, Echo, ici on les approche, compris. Rappelez Oscar Echo, QNH 9 ans, Hotel 1015, unité 0, unité 5.
Le pilote réduit le régime de ses moteurs. Le pilote surveille ses cadrans. Voici l'un des quatre contours qui reflète la marche de l'un des moteurs.
Airbus 801, bonjour, bienvenue à Roissy. Donc le vent 300 degrés lumineux, piste 27 droite, autorisé atterrissage.
Et sur l'air de Simon, qui semble vouloir se dérober sous lui, l'énorme oiseau de 35 tonnes se pose avec la précaution massive du goéland qui aborde au rivage.
Et maintenant, dans un ciel de vacances, partez, partez, Air France.
Donc on a une très très belle série, hein. Je vais vous passer un petit extrait pour les hôtesses et stewards parce que c'est très, très, très bien aussi s'il y a des personnes qui travaillent sur le vent. C'est pas mal aussi.
Efficace à la disposition du passager.
Une tranche épaisse, s'il vous plaît.
Ne passez pas trop votre viande, elle perdrait son jus.
Donc, mademoiselle, pouvez-vous m'expliquer comment, en cas de non-fonctionnement du circuit automatique, vous procédez pour ouvrir cette trappe?
Non, 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 la coupe de ce fromage est ainsi.
Jeune et jolie, elle doit faire vœu de célibat. Les règlements officiels, la géographie et beaucoup d'autres matières ardues.
Mais point n'est besoin de t'en parler, ces 32 hôtesses d'Air France vont devenir les messagères de l'élégance et du bon goût français en portant à chaque escale robes, manteaux et articles de Paris. Une heureuse manière d'exporter la qualité française.
Air France, qui ne l'ignore pas, a renouvelé la garde-robe de ses hôtesses pour les vêtir de bleu pâle et pour la première fois dans l'histoire de la compagnie, de rose. Les modèles ont été conçus par un grand couturier parisien. Par souci d'élégance, un ensemble de pièces a été choisi.
Ça alors, c'est vous qui avez été désigné?
Oui.
Bonjour, commandant.
Bonjour, mademoiselle. Tout est prêt.
Pouvez-vous faire prévenir l'hôtellerie? Nous sommes prêts.
D'accord.
Merci.
Allô, PCL. L'hôtellerie peut se mettre en place pour le Dakar.
À bord, l'hôtesse de l'air vérifie l'arrimage de ses provisions.
Cet appareil est un super constellation.
À destination de Paris, aéroport Charles de Gaulle.
Voulez-vous mettre vos ceintures?
Voyage à main les plus lourdes, si possible, pour passer sous les sièges devant vous.
Nous espérons que vous aurez tous un agréable voyage.
Donc on peut dire que même sur le plan médiatique, en fait, ce sont des objets totalement nouveau, en fait, de réelles innovations médiatiques à observer, ces types de contenus diffusés par les entreprises sur YouTube, produites par des sociétés de production, et donc mise en ligne à l'occasion d'un anniversaire. Donc là, c'était pour les 75 ans de la chaîne, donc une série de 10 vidéos. Et plus récemment, on en a vu une en 2015 à l'occasion du Festival de Cannes, par exemple, l'intitulé Air France, transporteur historique des stars de cinéma. Donc on a aussi un montage comme ça, très, très découpé, avec une succession d'arrivées ou de descentes sur un tarmac, et on voit toutes les stars qui arrivent, qui sont déposées, sont déposées à Cannes grâce à Air France. Et donc on voit aussi à quel point les usages des archives audiovisuelles peuvent être créatifs aussi. Donc ils s'insèrent dans un paysage médiatique aussi qui est en pleine transformation. Donc voilà, c'est aussi ça que je vais signaler dans ce rapport de réflexion que je propose, sur les usages des archives audiovisuelles par les entreprises privées, c'est-à-dire toute cette dimension aussi maintenant complètement de communication numérique, complètement intégrée dans les entreprises, avec l'entreprise qui elle-même en fait construit un événement à l'occasion de notamment d'un anniversaire ou d'une commémoration. Et donc l'entreprise, ça aussi c'est des choses qui se transforment au niveau des théories de l'événement qu'on étudie en sciences de l'information et de la communication. Par exemple, on voit que là ce ne sont plus seulement les médias qui produisent des événements, mais les entreprises elles-mêmes qui mettent en scène, produisent des événements, et grâce à ces contenus audiovisuels. Donc on voit aussi par exemple qu'il y a un relais dans la presse spécialisée où Air France met en ligne son patrimoine historique et culturel. C'est aussi un événement, c'est-à-dire la mise en ligne par l'entreprise de son patrimoine devient un événement. Donc pour résumer, je vais m'appuyer donc pour ce rapport de réflexion sur l'étude de Clément de 2013 et aussi sur l'intervention d'Olivier Lange et François Moreau donc au séminaire de l'INA de l'année dernière, donc le séminaire Marque, patrimoine et contenu numérique du 30 juin 2015. Et donc si j'insère ce programme dans le questionnement plus large en fait du DPN, dans le questionnement du réseau usage des patrimoines numérisés, en fait c'est vraiment la question de la numérisation du patrimoine comme innovation socio-technique qui me semble intéressante à apporter, aussi la notion de controverse socio-technique, c'est-à-dire l'appropriation des techniques et des outils comme controverse, même à l'intérieur des projets du réseau. Donc moi j'ai un petit peu pu observer ça aussi pendant les 7 derniers mois, les différentes controverses de ce processus aussi d'innovation socio-technique qui est en train de se produire pour les humanités comme discipline scientifique. Et donc j'ai pu observer les différents états d'avancement des projets, la distribution des compétences techniques entre internes et externes dans les projets, la culture technique qui circule dans les projets. Et j'ai pu aussi observer les processus de négociation qui sont à l'heure dans les projets, avec toujours cette dimension performative de la communication que je tenais à souligner, et aussi la notion d'usage donc, qui est transversale. Avec donc moi, ce que je peux apporter du point de vue des sciences de l'information et de la communication, comme par exemple des auteurs comme Perriot sur la logique de l'usage, avec l'idée que l'hypothèse est que les usagers ont une stratégie d'utilisation des machines à communiquer, donc des choses qui sont à prendre en compte aussi dans la conception. Et aussi le concept de traduction et de scénario d'usage, tel qu'il est énoncé par Madeleine Akrisch dans Les formes de la médiation technique. Donc l'élaboration des techniques peut être décrite comme l'élaboration d'un scénario constitué d'un programme d'action, de la répartition de ce programme d'action à des entités diverses, dispositifs techniques qui font l'objet de l'innovation, mais aussi d'autres dispositifs auxquels l'innovation va être associée, utilisateurs bien sûr, mais encore techniques, installateurs, distributeurs. Enfin, une représentation de l'environnement dans lequel le programme d'action peut ou doit se réaliser. Et donc, elle explique que dans cette perspective, le travail du sociologue consiste à décrire les opérations par lesquelles le scénario de départ, qui se présente essentiellement sous une forme discursive, va progressivement par une série d'opérations de traduction qui le transforme lui-même, être approprié et porté par un nombre toujours croissant d'entités, acteurs humains et dispositifs techniques. Donc ça, c'est toute l'école de la sociologie de la traduction, Bruno Latour, Madeleine Akrisch et Michel Calon. Il y a aussi une autre thématique intéressante qui est celle de l'effet de halo. Donc ça, c'est chez Gilbert Simondon, qui décrit le sentiment de participation technique ou un certain type de dépendance de l'utilisateur par rapport au producteur qui fait du producteur l'éducateur, le professeur, l'homme qui donne des conseils, des règles d'usage avec des prescriptions plus ou moins mystérieuses. Donc il poursuit dans la définition d'une relation asymétrique en expliquant que le producteur est l'initié qui accepte de dévoiler une partie de son savoir, une partie seulement, car l'utilisateur restera un profane, mais un profane sachant certaines règles et même certains mots. Il acquiert un savoir parcellaire, peu cohérent, mais qui n'est pas sans quelque parenté avec le vrai savoir supposé archétype de la construction achevée. Donc l'objet technique laisse rayonner, donc ça c'est l'effet de halo, l'objet technique laisse rayonner autour de lui une lumière qui dépasse sa réalité propre et se répand sur l'entourage. Il y a ainsi une zone de technicité plutôt qu'un objet technique, c'est la technicité de l'objet qui rayonne, c'est elle qui établit la participation. Et donc ça c'est vraiment le travail que j'essaie de faire sur la relation entre technique et discours, finalement la relation entre technique et société. Et donc au niveau du questionnement transversal qu'on a eu avec Marie pour le programme IDPN, mon idée c'était d'observer la dimension communicationnelle et technique développée dans les projets scientifiques en humanité numérique, les relations entre les savoirs pratiques, les compétences techniques, la circulation auprès des parties prenantes d'un projet, et d'observer des techniques de communication, des relations entre disciplines également, des circulations de savoir autour de l'élaboration de plateformes numériques et l'élaboration de pratiques qui mêlent technique et discours. Et donc c'est comme ça aussi qu'on a pu mettre en évidence avec Marie une thématique forte du réseau qui est l'appréciation du geste scientifique aussi comme un acte patrimonial, avec l'intégration des usages informatiques comme innovation pour les scientifiques du domaine des humanités, et le geste scientifique lui-même qui est modifié par le numérique, et le geste scientifique qui est aussi un geste de patrimonialisation. Et donc c'est là que je vais donner la parole à Marie.
Comme exemple de...
Oui. Oui.
Oui.